Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Il faut plus de 40 millions de dollars pour aider les déplacés au nord et au sud Kivu, ainsi que dans les pays voisins. L'appel est du ACR. Il y a un besoin urgent d'abris, de nourriture et de latrines. Entre-temps, plusieurs cas de rougeole sont déjà signalés, alerte le ACR. Bonne nouvelle pour les habitants de Lubefu dans le Sankuru. Bientôt l'accès à l'eau potable, non loin de leur résidence. 6 forages, des puits d'eau sont en construction sur place. Un projet initié en partenariat avec l'ASBEL belge Maillon Humanitaire. Et puis, la régie des eaux Maniema éprouve actuellement des difficultés de fonctionnement, situation qui met à mal la desserte de la population en eau potable. Pour en parler, nous recevons Michel Tchijik, directeur provincial de la régie des eaux Maniema. Madame, messieurs, bonjour. Les rebelles du M23 continuent leur progression au nord et au sud Kivu. Entre-temps, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACR, lance un appel de fonds de plus de 40 millions de dollars pour aider les personnes déplacées dans ces deux provinces de l'Est de la RDC et dans les pays voisins. Récit de Gisèle Cage, rendu par Stanislas Diomi.
Selon l'agence, depuis le début du mois, plus de 40 000 ressortissants congolais, en majorité de femmes et des enfants, sont arrivés au Burundi. Ce nombre est susceptible d'augmenter à mesure que les hostilités en RDC progressent vers la ville d'Uvira, près du principal point de passage officiel de la frontière avec le Burundi. Cette inquiétude était vendredi depuis Bujumbura, la représentante du HCR au Burundi, Brigitte Mukanga Eno, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève. Un nombre inquiétant d'enfants. En collaboration avec les autorités nationales, les réfugiés seront transférés dans les prochains jours vers le site de réfugiés des Mousseni, dans le sud-est du pays, qui a une capacité d'accueil de 10 000 personnes. Selon le HCR, il y a un besoin urgent d'abri, de nourriture et de latrines, ainsi que de reloger les nouveaux arrivants dans d'autres sites afin de remédier à la surpopulation. Plusieurs cas de rougeole ont été confirmés avec un risque réel de propagation de la maladie, étant donné le nombre croissant de personnes dans la région. L'appel de 40 millions lancé vendredi par HCR permettra de venir en aide à 275 000 personnes déplacées. Les fonds visent aussi à soutenir un afflux potentiel de 258 000 réfugiés, demandeurs d'asile et rapatriés dans le pays voisin, y compris au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, et en Zambie.
Pendant ce temps, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, exhorte les médias congolais à faire preuve de patriotisme en cette période cruciale de l'histoire de la RDC. Christian Bossembe se félicite de l'observance par la plupart des médias des directives du CESAC concernant l'agression injustement imposée à la RDC dans l'est du pays. C'était lors d'un point de presse organisé hier à Kinshasa. Selon lui, face à l'enjeu existentiel de la RDC et à la désinformation sur la guerre à l'Est, la presse doit responsabiliser la population et ne pas céder à toute forme de manipulation. Le président du CESAC, Christian Bossembe, dans ses propos recueillis par Marcel Ngombombala.
Ici, je suis vraiment venu vous remercier d'abord, la presse. Notre directive a été, à 90% suivie et même respectée, relayée, même s'il y a eu des déformations de nos propos, mais dans l'ensemble, nous avons quand même remarqué que les gens ont plus ou moins respecté la directive. Donc je vous félicite vraiment la presse, surtout nationale, parce que vous avez suivi ces discours-là. Vous avez fait le choix. Comme vous le savez, dans chaque période, la presse choisit son camp. Et je remercie la presse congolaise puisqu'elle a fait le choix de la patrie. Ça a été remarqué que dans certains médias, ils ont carrément refusé même des débats stériles. Et tout était vraiment dirigé vers la consolidation de la cohésion nationale. Et j'ai vu personnellement certaines plumes aussi merveilleusement écrites. Il y en a d'autres, des plateaux qui ont été dédiés entièrement à la question de l'Est. Parce que vous devez le savoir, nous traversons une situation extrêmement difficile.
Dans le même cadre, parlons de cette parade à Lubumbashi, parade mixte, FARDC, police nationale congolaise et service national, présidée hier au camp major Vangu par le commandant de la 22e région militaire. Au cours de cette rencontre, le général de brigade Eddy Kapend a rappelé aux troupes présentes que le pays est en guerre. Pour cela, elles doivent rester en alerte et prêtes pour défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême, dit-il. Jean Gandou pour le reportage.
L'objectif était de remobiliser les troupes au regard de la situation que traverse le pays. Il leur a rappelé le sens de leur devoir sacré, à savoir ne jamais trahir la patrie. Pour lui, les soldats doivent être prêts pour la bataille. Sa mission en tant que commandant de la 22e région militaire, a-t-il indiqué, est de mettre toutes les troupes sous sa responsabilité en état de guerre. Il leur a demandé de rester en alerte et surtout vigilante, tout en interpellant leur conscience.
Et s'engager avec courage, avec orgueil et avec honneur à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Il est un honneur pour un soldat que de mourir avec son arme en main. C'est un déshonneur, c'est une honte pour la République parce que les soldats fuient et il est massacré comme une souris.
En rapport avec l'attitude que les militaires doivent avoir, il a précisé ceci.
Toute la 22e région militaire est composée par des hommes qui sont conscients, qui savent pourquoi ils sont rentrés dans l'armée et le moment est venu pour que le sens de notre engagement sous les drapeaux soit opérationnel. Donc mes hommes et moi-même resterons debout devant l'ennemi, nous nous battrons jusqu'au dernier de nos soldats.
Enfin, le général de brigade Dick Appin a demandé aux uns et aux autres de sécuriser la population et surtout de vivre en harmonie avec elle comme le poisson dans l'eau. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero au nord Kivu, des scènes de pillage des boutiques et des maisons d'habitation sont signalées depuis jeudi à Kimbulu, Moussienene et Kiamboro, des localités situées le long de l'axe routier Lubero-Butembo. Des militaires des FARDC, partis du sud du territoire de Lubero pour Butembo et Beni, sont pointés du doigt. Guylaine Kassassia nous en dit plus.
Les sources de la protection civile dans la zone qui livrent la nouvelle leur enseignent que les auteurs sont des militaires des FARDC venus du sud du territoire de Lubero et qui se dirigent vers les villes de Butembo et Beni. Jeudi, à Moussienene par exemple, des sources locales affirment que ces militaires ont tiré des coups de feu en l'air pendant des longues minutes, pendant qu'ils dévalisaient de boutiques. Certains de ces hommes en uniforme vont même jusqu'à poursuivre des habitants dans leur maison pour les dépouiller de leurs biens. Deux civils blessés par balles le suivent actuellement des soins dans une structure médicale de la place. En dehors de bien piller dans des boutiques, ces soldats des FARDC ravissent également des motos à des taximens. Cette situation accentue la psychose au sein de la population. Certains habitants ont fui leur milieu, surtout ceux qui habitent le long de la route Kimbulu-Moussienene et Kiamboro sur la nationale numéro 2, craignant pour leur sécurité, renchérissent nos sources. Pour rappel, dans ce communiqué publié jeudi, l'armée demandait à tous les militaires fuyards de retourner en front. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Rendons-nous au Kwilu. Au moins 700 ménages des déplacés de Kwamout vivant dans les zones de santé de Bagata et de Kikongo bénéficieront bientôt de l'assistance de l'ONG ADES. Il s'agit de logements, des articles ménagers essentiels et autres. C'est dans le cadre du projet Réponse multisectorielle et intégrée en faveur des populations vulnérables affectées par la crise dans la province du Kwilu. Ce projet a été lancé hier par le gouverneur intérimaire à Bandundu en présence des membres du gouvernement, des autorités sécuritaire et sanitaire de la division provinciale de la santé Kwilu. Le point avec Irène Boma.
Prévu pour une durée de 12 mois, ce projet financé par les fonds humanitaires en RDC cible 700 ménages de déplacés ayant fui les hostilités de la milice Mobondo à Kwamout et vivant actuellement dans les zones de santé de Bagata et de Kikongo en province du Kwilu. La mise en œuvre du projet prévoit plusieurs interventions qui seront réalisées par l'ONG ADES. L'objectif est de répondre efficacement aux besoins prioritaires des populations touchées par la crise humanitaire afin qu'elles puissent retrouver leur dignité humaine. Flavien Joanga est le chef de projet.
Nous sommes venus donner la réponse à la population déplacée qui dorment dans des écoles, dans des mosquées. Des tanks humanitaires, nous avons voulu redonner de la dignité à tous ceux qui passent la nuit à la belle étoile à travers la construction de logements, à travers la distribution d'équipes d'hygiène intime, à travers l'appui à articles ménagers essentiels.
Le ministre provincial Grégoire Maloua Bigiliga, qui a lancé au nom du gouverneur des provinces ce projet, a plaidé pour que la zone de santé de Bandundu soit aussi prise en compte, car elle compte également plusieurs déplacés. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette bonne nouvelle pour la population de Loubéfou dans la province du Sankourou. Plus de 30 000 habitants de Loubéfou centre, des localités de Pembe et de Chenga dans le secteur de Ndjovu vont bientôt accéder à l'eau potable non loin de leur résidence. Cela grâce à la construction de 6 forages, des puits d'eau, un projet initié en partenariat avec l'ASBEL belge Maillon Humanitaire, soutenu par le centre hospitalier régional de Haï et Wallonie-Bruxelles International. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
6 véhicules transportant les matériels de forage des puits d'eau sont arrivés ce vendredi à Loubéfou Centre. Aussitôt arrivés, les travaux de construction des forages ont commencé dans Loubéfou Centre. D'après le député national Hippolyte Ndjongabo, qui a mené le plaidoyer auprès des donateurs, les forages de puits d'eau seront creusés à Loubéfou Centre, à Pembe et à Chenga dans le secteur de Ndjovu. Ce geste a pour but de lutter contre les maladies hydriques dans la région.
Malgré l'existence de plusieurs rivières à Loubéfou, l'eau consommée par la population n'est pas bonne. La consommation de cette eau conduit au développement de toute une série de pathologies, dont la fièvre typhoïde, la dysenterie amébienne et de nombreuses verminoses intestinales. Ce projet permettra aussi de réduire la corvée d'eau aux femmes de Loubéfou appelées à parcourir de longues distances pour puiser de l'eau.
Un habitant de Loubéfou remercie les initiateurs de ce projet.
Aujourd'hui, nous allons commencer à boire contre une eau qui ne renferme pas de microbes.
Signalons que l'arrivée de ces 6 camions a créé un engouement et une joie immense dans la population. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Culture à présent. La diversité linguistique de l'Ituri est une richesse qui doit promouvoir le vivre ensemble et non s'aimer des divisions au sein de la communauté. Ces propos sont de Bagamba Arali, professeur en linguistique et expert en comportement langagier. C'est en marge de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février. Dans une interview à Radio Kapi, le professeur Arali souligne que l'Ituri compte une vingtaine de langues parlées dans les 5 territoires de la province. Il insiste sur l'importance pour toutes les communautés d'inculquer dès le bas âge à leurs enfants la culture de l'amour du prochain et du pardon pour favoriser le vivre ensemble. Bagamba Arali s'exprime au micro d'Ezekiel Mouzalia.
L'Ituri, c'est la seule province où vous trouvez les langues bantoues, les langues nilotiques. Ça fait pour nous une richesse linguistique dont nous devions être vraiment fiers. Selon l'UNESCO, il faut que chaque enfant puisse parler au moins 3 langues. Sa langue maternelle, une langue régionale comme le Swahili ou le Lingala, et une langue internationale pour acquérir les connaissances au niveau universitaire. Alors, c'est ce que nous voulons encourager. Un enfant qui parle la langue Beke doit aussi parler le Swahili pour parler Ndaka et Ombo et les Bali qui sont dans les environs, et aussi le français pour accéder à les formations du niveau universitaire. Nous devons éduquer nos enfants à comprendre qu'il y a eu donc la diversité culturelle que nous avons, c'est plutôt une richesse. Je ne suis pas tout à fait satisfait du cours de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Je veux un cours où on va enseigner aux enfants que nos enfants maîtrisent toutes les tribus de ce pays et avec leur diversité, qu'on leur dise que tous ces citoyens sont tous des Congolais et ils ont le même droit devant Dieu et devant l'État.
Sachez que la Journée internationale de la langue maternelle avait été instituée par l'UNESCO en l'an 2000. Dans la province du Maniema, les équipes cadres des zones de santé et de la division provinciale de la santé ont été formées à la numérisation des activités de supervision. C'est notamment pour lutter contre le paludisme afin de digitaliser le système de santé. Une formation organisée par l'organisation santé rurale Sanru Asbel. Écoutons à ce sujet le docteur Jean-Claude Kafutwa au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons réuni les cadres des zones de santé, le médecin-chef des zones, les infirmiers superviseurs, les data des zones de santé. Nous avons aussi ici le cadre de la DPS. Nous avons aussi les différents cadres de sous-bénéficiaires ou acquis. Comme vous le savez, le monde est numérisé, c'est l'ère du numérique et dans nos appuis, nous donnons les appuis par rapport aux luttes contre le paludisme et il y a des sites de soins que On a installé avec les ministères de la santé dans les différentes zones de santé et ces sites de soins sont supervisés par les infirmiers titulaires. Nous avons voulu alléger la tâche des infirmiers superviseurs qui vont superviser ces sites de soins en digitalisant leur supervision. C'est comme ça qu'il y a ces formations en cascade. Nous formons d'abord la DPS et les zones de santé et à leur tour, ils vont former maintenant les IT pour utiliser cette application dans leur prochaine supervision.
Actualité internationale.
Le président américain Donald Trump promet que des statues des Noirs américains feront partie des figures honorées dans le Jardin national des héros américains. Ce discours intervient dans le cadre d'une cérémonie organisée à la Maison Blanche en l'honneur du mois de l'histoire des Noirs. L'un de ces héros sera notamment Prince Estabrook, premier Noir américain à avoir été blessé pendant la guerre d'indépendance.
L'invité.
La régie des eaux Maniema éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement, ce qui ne permet pas à cette société publique de servir correctement la population, estimée à plus de 440 000 habitants. Michel Tchijik est le directeur provincial de la régie des eaux Maniema. Il s'entretient à ce sujet avec Florence Kizalunga.
Monsieur Michel Tchijik, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Monsieur le directeur, est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport au système d'addiction d'eau potable dans la province du Maniema?
Merci beaucoup Madame Florence pour la question. Et effectivement, les problèmes des décès en eau potable dans la province du Maniema sont très très criants. Sur les 7 territoires qui existent, nous y sommes dans 5 avec des petits systèmes qui tiennent encore bon jusqu'à aujourd'hui. Donc à Kindu, nous avons un système d'addiction au niveau du fleuve qui nous donne à peu près une moyenne de 1500. Nous additionnons avec un autre système à Luama et de l'autre côté sur la rive droite à Lunguli, ce qui nous amène à avoir un total autour de 2000. Alors hier, au niveau de la conférence, nous avons parlé des 2600. C'est le total avec ce que donnent les associations qui gèrent les installations faites par Enabel. Quand on fait le total, ce que donne la régie des eaux autour des 2000, ce que donnent ces associations, nous avons un total de 2600 pour la ville de Kindu seulement. Et en ce qui concerne les autres territoires, nous existons à Kasongo, nous sommes aussi à Punia, où les travaux de récupération du réseau sont en cours, et nous sommes également à Kabambare et à Kalima. Et très bientôt, peut-être nous allons démarrer les activités au niveau des Lubutu.
Nous voyons que c'est un défi, il y a une forte demande, mais l'offre est trop petite, pourquoi?
Certainement au niveau de Kindu, le siège de la province, la demande elle est très forte. S'il faut nous arrêter sur les statistiques de 2023, la population est estimée à 440 000 habitants avec une dotation de 60 litres par jour par habitant. Nous sommes à un besoin de 26 400 mètres cubes jour. Alors que le total des systèmes existants nous donne 2600. Donc vous remarquez tout de suite que c'est 10%. Un défi énorme et non seulement sur les sièges de Kindu, mais c'est la même chose au niveau de la province.
Qu'est-ce que la régie des eaux, vous pensez alors faire pour résoudre cette question?
C'est vrai que la régie des eaux travaille déjà sur des petites unités. De façon générale, la régie des eaux se bat dans la mesure du possible pour remonter les niveaux des dessertes. Mais en réalité, c'est un défi majeur qui ne peut pas être résolu uniquement par la régie des eaux. Pourquoi? Parce que les problèmes sont connus, les études ont été faites récemment pour la ville de Kindu et un projet existe dont le dossier d'appel d'offres est là et montre qu'il nous faut réunir au moins 8 millions de dollars pour la construction d'une chaîne de traitement complète au niveau du fleuve et être en mesure de porter les taux de desserte de 10 aujourd'hui jusqu'à 72%. Donc là, ce n'est pas seule la régie des eaux qui peut le faire. Nous ne pouvons porter cette difficulté au niveau du gouvernement provincial et le gouvernement provincial peut-être s'adresser au gouvernement central par les biais du ministère des Finances, chercher comment on peut trouver des partenaires extérieurs pour financer ce genre de projets, notamment la Banque mondiale, la BAD et les autres, de façon à pouvoir construire une usine à monnaie du fort.
Mais nous voyons que depuis des années, la régie des eaux ne dessert que les habitants, sinon la population se trouvant dans les anciens lotissements. Mais dans de nouveaux lotissements, la régie des eaux n'est pas présente.
Ah, c'est vrai, c'est un constat correct. Bon, la raison c'est quoi? C'est parce que les investissements n'ont pas suivi l'augmentation démographique. Ça veut dire qu'on a construit des installations d'il y a longtemps pour une petite population qui existait dans le temps. Mais l'accroissement est phénoménal au niveau de nos entités et les investissements gouvernements n'ont pas suivi. Conséquence, les installations qui existaient il y a 40 ans, 30 ans, ne vont desservir que les zones qui étaient encore loties à l'époque. Mais les nouveaux lotissements ne sont pas atteints parce que la quantité n'est pas suffisante pour d'abord desservir les anciennes parties qui existaient, mais également atteindre les zones périphériques. Ça, c'est la difficulté. C'est la raison peut-être pour laquelle vous remarquez que seuls les anciens lotissements proches des anciennes installations sont correctement desservis, alors que les périphéries ne sont pas atteintes.
Est-ce que vous pensez quand même à résoudre la question?
Oui, c'est comme je venais tantôt de le dire, nous pouvons résoudre cette question de deux manières. Une première façon, c'est de mobiliser les ressources en eau dans les zones périphériques et faire des adductions d'eau localisées. Une deuxième façon, c'est d'avoir carrément un grand système de production d'eau potable tel que le projet dont je venais de dire. À ce moment-là, nous allons étendre les réseaux. L'eau ne va pas desservir seulement les anciens lotissements et peut être en mesure d'atteindre les périphéries de la ville.
Monsieur Michel Tchijiko, merci.
Merci Madame Florence.
Le directeur provincial de la régie des eaux Maniema répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jules Mystère Bilanda, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres. À partir de 13h, retrouvez Grâce Amzati pour la suite.